Rentrée de France Culture, bonjour. François Strossard et la belle équipe en piste, avec les jolis dimanches façon Dante et De Vos et le pamphlet de Jean-Bernard Pouy contre les gens qui cachent leurs tuyaux.
De façon à ne plus exposer aux yeux de tous, habitants et visiteurs, ce qui ne cadre plus avec les goûts du jour, où tout doit être carré, lisse, net, blanc, immaculé, vierge, chiant.
Et puis la chose et ses malentendus, petits exercices de style, par Gérard Mordilla, Jacques Bertrand, Jacques Vallée et Eva Almassy.
J'en parle à la troisième personne.
Oui.
Ça me concerne un petit peu moins.
D'accord.
Pour une fois. Oui. Alors que je me sens toujours concernée partout.
Ensuite, le droit de réponse du jour fantôme de Jules Verne. Et le DLA pour un piège littéraire proposé par Patrice Minet à quatre experts affûtés. On ne se quitte plus jusqu'à 13h59. Merci à tous pour votre fidélité affectueuse au Papou de France Culture. Une émission à télécharger pendant un an sur franceculture.fr. À réécouter 1000 jours sur France Culture quand le désir vous prend. Nous devions diffuser aujourd'hui la première partie des Papous à la Criée de Marseille. Un enregistrement public prévu le week-end dernier et annulé comme tous les spectacles, manifestations sportives ou politiques pour des raisons que personne n'oubliera. Alors voilà, on espère bien avoir l'occasion de vous retrouver à Marseille un jour prochain. Et nous sommes donc aujourd'hui dans notre studio et heureux de vous y accueillir via les ondes. Et pour ouvrir ce numéro des Papous dans la tête, un nouveau joli dimanche pastiche pour rendre hommage à ce jour délicieux qui nous réunit, un joli dimanche à l'italienne, imaginé par Dominique Muller. Présentation Dominique.
C'est celui de Dante Alighieri. Canto uno. Lors, je me retrouvais par la forêt sauvage, au matin d'un dimanche, allant vers Béatrice, partie en randonnée, campée sur un rivage. Perdu, je cherchais indication salvatrice. Mon pied léger, celui d'un elfe, laissait à Florence ses guelfes. Mon corps là, dans un patelin, croisa des boy scouts gibelins. Il faut avoir lu Dante pour savoir de quoi je parle.
Oui. Vous pouvez nous faire une note en bas de page pour Serge Joncourt.
Me reposant, j'ai vu un peintre du dimanche sur sa toile jetant panthère, lion et louve. Ici, en sol toscan où fleurit la pervenche, lui dis-je, cette faune est étrange, je trouve. Canto due. Lors, tu t'es égaré, marmonna l'homme en grec. Tu as tourné en rond en jogger du dimanche. Tous pareils, un pas à peine et ça réclame un break. Tu espères aller loin, déjà ton mollet flanche. Moi, Ulysse, ça me défrise. J'attendis qu'il me traduise, sans comprendre sa langue ardente, puis confus me présentait Dante.
Ah oui.
Très joli,
merci.
Ardente Dante.
J'ai beaucoup travaillé.
C'est parfait, Jacques Vallée.
Parfait.
Je le quittai, erré sous la chaleur d'enfer, du feuillage touffu m'oppressait le couvercle. Tu n'iras nulle part, grognait Lucifer. Sortir d'ici, c'est la quadrature du cercle. Canto tre. Lasciate ogni speranza voi quintrate. Laissez toute espérance et donnez âme au diable. Non, je ne voulais pas d'un dimanche raté. Désirant Béatrice et son camping enviable, issu d'un rond-point giratoire, j'avais soif d'une eau purgatoire, ayant attrapé la colique en ce dimanche bucolique, quand l'âme de Virgile au bord de l'Achéron arbitra de Caron et Cerbère la Rix. Dimanche de merda. J'étouffais ce juron, noyé dans les méandres ténébreux du Styx. Canto quattro. Je nageais en canard, un dolce style novo, qui retint ma plongée dans le puits des géants. Ma Béatrice enfin jouit, criait « Bravo, en mon dieu des sportifs, tu n'es plus mécréant !» Au loin, sur la plage du Nil, elle attendait la rude idylle, belle étoile et vie de bohème, sans déclamer un seul poème. Béa rit quand je dis avoir vu Belzébuth et l'archange Michel. « Veux-tu du chorizo ?» dit-elle. « Un dimanche dantesque me rebute. Tu ne l'emporteras pas au paradiso. » C'est fini. Je reconnais que j'aurais pu continuer pendant des heures comme ça.
Alors, mais je me sentais très très bien parti.
On attendait 32, 33, 34.
Il étale les oiseaux, elle passe en vivant quand la filtre et la plume. Mais il y a voir la capote, pas la filtre et la plume.
À vos pamphlets, place à Jean-Bernard Pouy. Il n'est pas toujours commode, Jean-Bernard Pouy. Quand il est irrité, il le dit sans mâcher ses mots. Évidemment, on ne parle pas là des grands sujets, on n'est pas là pour donner des leçons, non. On parle de ces petites choses qui gâchent le quotidien, comme l'anticyclone des Açores, viendra, viendra pas, les pantalons taille basse, ça flotte, les fins connaisseurs, la manie qu'ont certaines personnes d'arriver de jour à l'heure, ou les trucs pouet-pouet, comme vous dites, Jean-Bernard Pouy, comme la baguette tradition qui vous insupporte.
Oui, mais là, je vais être utilitaire.
Ah ?
C'est pour le bien des familles.
Mm-hmm.
Surtout des messieurs, parce que bon...
Ah oui, le monde se divise en deux, quand même. Ouais.
Parce que s'il y a bien un truc qui me rend fou, et de plus en plus, c'est cette obligation, depuis des décennies, d'inclure dans les murs et les cloisons tous les tuyaux. Eau, gaz, électricité,
oui.
De façon à ne plus exposer aux yeux de tous, habitants et visiteurs, ce qui, pour les architectes d'intérieur et autres bricoleurs à la mode, est d'une laideur infecte et ne cadre plus avec les goûts du jour, où tout doit être carré, lisse, net, blanc, immaculé, vierge, chiant. Tout le monde adore les tuyaux du centre Pompidou et personne n'aime le moindre tube apparent chez lui. Ouais. Plus rien ne se doit d'être apparent. Tout est caché, tout se cache. Et tous ceux qui vivent dans ce cauchemar lyophilisé et qui apparemment sont satisfaits passent leur temps, le week-end ou pendant les vacances, à visiter des manoirs ou des châteaux dans lesquels ils s'esbaudissent de la complexité du practico-inerte, tuyaux, cheminées, robinets gigantesques, saignées murales, etc., qui désormais n'existent plus en nos temps modernes, mais qui fleurent bon la vie d'antan. L'hédonisme à base de chapons élevés en plein air et de baignoires en cuivre emplies d'eau chauffée dans l'âtre. Il y a en permanence un vieil obrou qui sommeille en nous. Mais revenons à nos lisses cloisons.
Oui.
Dans les maisons particulières, pas trop de problème. S'il y a des gars, c'est pour votre pomme. Même si c'est aussi dramatique qu'un autre dégât. Prenons par exemple l'eau. Sous pression ou non. Une très petite fuite, normale en fait. Une goutte toutes les minutes. Les joints s'usent avec les jours, avec les ans, peuvent vous pourrir entièrement un mur, un réseau de poutres, un parquet. Alors que si le tuyau est apparent, en attendant l'arrivée du plombier, ou si il est dans le coin de Patrice Elbourg, vous repérez l'origine de la fuite et vous mettez un petit saladier en dessous pour recueillir l'eau qui, du coup, ne vous détruira pas, à force, la totalité de votre baraque.
Ouais.
Mais si vous habitez un immeuble, avec plein de gens qui habitent dessous, non seulement vous détruisez sans le savoir et en toute bonne conscience une partie de votre habitation, mais également celle de l'étage inférieur où les habitants ne s'en apercevront que trop tard et du coup vous allez vivre l'enfer des copropriétaires. Coupable, et vous cognez l'horreur des rendez-vous avec les assurances et l'enfer de la lecture de leurs considérations incompréhensibles. La plomberie c'est simple et facilement réparable. Mais s'il faut casser un pan de mur, démonter un enrobage de baignoire sans trappe de visite, abattre un plafond, c'est une toute autre affaire, surtout financièrement. On sait ce que ça coûte un plombier. Déjà, le déplacement. On dirait qu'il arrive en camionnette d'Oulan-Bator, alors qu'un petit sachet de joint coûte 1 €. Les tuyaux inclus amènent d'autres genres de désagréments. Impossible de planter un clou pour mettre au mur la photo de Tata Jeannette à Saint-Paul-de-Vence, sans savoir où passent les tuyaux et les fils électriques. Il y a des appareils électroniques pour tenter de savoir où ils se cachent, mais ça coûte aussi cher qu'un déplacement de plombier qui arrive en camionnette des îles Fidji. Par rapport à l'électricité, vous risquez en plus une décharge qui n'aura pas vraiment l'effet d'un défibrillateur et vous fera sauter les plombs. Bref, je ne comprends pas. Et ça m'énerve, ce que mes compatriotes ont contre les tuyaux apparents et les électriques baguettes. Je ne parle pas de ce bon pain frais que nous envie le monde entier, bien sûr, mais de ces fines strates de bois tendre que l'on peut agencer le long des murs, à la mode égyptienne ou bien à la Mondrian. et tous ces tuyaux où l'on peut suspendre cintres, tableaux, écharpes et parapluies sans avoir à bourrer des placards qu'on ne visitera plus jamais. Tous ces tuyaux et ces baguettes que l'on peut peindre de couleurs vives et qui feront de votre appartement l'antichambre d'un musée d'art populaire. Et puis j'ai la maladresse de croire que tous ces tuyaux et baguettes sont un peu comme nos veines et nos os. Ouvrir notre peau pour aller chercher, c'est vraiment douloureux.
On a l'impression que c'est moins le visuel qui vous gêne que le côté fric, quoi. Voilà. Quand il faut réparer, ça coûte très cher, non ?
Si vous avez accès à tout le circuit de plomberie, d'électricité, c'est rien à réparer.
Mais il y a qu'on appelle des voyants, non ?
Oui,
mais c'est caché.
Il a tout à fait raison. C'est surtout le côté on peut pas réparer. Ouais. Et puis les voyants, c'est très très difficile d'atteindre les.
Non,
les
puis quand on répare, c'est trop tard. Il faut casser le mur, casser celui d'en dessous.
Sauf, disiez-vous, si on a Patrice Delbourg dans le coin, parce que j'ai cru comprendre qu'il est très, très bricoleur.
Il est très bon pour les joints.
L'appel du 18 juin, c'est moi.
Ouais. Jacques Vallée, vous avez un point de vue sur les tuyaux, là.
Ah bon, oui, moi,
Jean-Bernard, il défend pas uniquement l'esthétique, évidemment, et vous.
Oui, mais j'ai une expérience récente pour illustrer le propos de Jean-Bernard, et ça peut déboucher sur des perspectives heureuses.
Ça débouche.
Ça débouche.
Ben, ça voilà. Débouche, oui, il a raison. Ah, mais c'est très drôle, Serge.
Voilà, on vient de faire des travaux chez moi. Une salle de bain neuve, 3 semaines dans les gravats, ça me va. On a tout cassé. Et effectivement, plus de tuyaux apparents, plus de fils électriques. Mais en perçant un mur de la salle de bain pour camoufler l'électricité, la perceuse a défoncé le mur et s'est retrouvée dans ma chambre à coucher.
Ah.
Alors voilà, de mon lit, j'ai désormais sous les yeux une grande balafre sur le mur. Bon, on ne voit plus les fils électriques, mais il y a cette cicatrice. Alors en attendant de refaire toute la chambre, ça, on verra. Et puis, sous la douche, un coffrage cache les tuyaux. Tout est propre. Mais, à la première utilisation, un peu après, coup de sonnette de ma voisine du dessous.
Ah bah c'est l'occasion de faire connaissance, Jacques.
Exactement, hein, ça coule chez elle. Elle hésite, elle est timide, elle est touchante.
Elle est jolie.
Je dis, c'est pas possible, tout a été refait chez moi, je suis assez brutal parce que j'aime pas qu'on me dérange.
Oui, c'est votre naturel, oui, un peu.
Alors, le lendemain, à peine suis-je sorti de ma douche, on ressonne, ça coule de plus en plus. Voilà. Une semaine plus tard, le plombier enfin revient. Il a laissé un petit regard sous la douche qui donne sur un espace où s'entasse toute la tuyauterie. Les arrivées d'eau, la colonne d'évacuation. Le type enlève la grille de protection, se met à quatre pattes, éclaire avec son smartphone. Ne voit rien de suspect, juste un peu d'humidité. La condensation, dit-il, c'est normal. Bon. Le lendemain, ma voisine sonne à nouveau. On commence à s'habituer l'un à l'autre, on découvre des points communs. Bref, il faut attendre que le plombier revienne, alors on entretient notre relation. Cette fois, le plombier ne peut pas dire que ça ne fuit pas. Il y a une nappe d'eau. Mais il ne peut atteindre les tuyaux qui sont tapis au fond de la douche. Il n'a pas le bras assez long.
Ah.
Alors il se gratte la tête, parce que quitte à faire quelque chose avec son bras. Tout a été refait, le carrelage impeccable, la cuvette de la douche solidement fixée, il hésite.
Oui, c'est bizarre, une cuvette de douche. Oui.
J'irai pas prendre un bain.
Il faut tout casser, dit-il, mais il faudra du temps. Et alors, et en attendant, ma voisine sonne chez moi et souriante me dit, en attendant, venez prendre votre douche chez moi.
Ah, bah, c'est le début d'une belle histoire. Et qu'est-ce qu'on lui dit à son plombier, Jacques ? On lui dit merci, non ?
Non, mais comme quoi, ça peut être handicapant, mais pas toujours.
Non,
pas
toujours.
Oui. C'est une drôle d'installation quand même. La cuvette de la douche, donc, alors, tirer la chasse après chaque douche.
Non, mais ça s'appelle une cuvette, ça, monsieur. Le bas de la douche.
C'est pas un bac ?
Le bac, si
le bac de la douche, oui.
Depuis bientôt un mois et demi que s'est installé dans ma vie, il n'y a plus de place dans mes nuits pour le sommeil ou pour l'ennui. Elle s'endort sur mon épaule. J'ai dans les yeux ses boucles folles. Ça me fait bien loucher un peu, mais j'aime tant ses blonds cheveux. Mon bras passé sous son aisselle. Elle contre moi, moi tout contre elle. J'ai des fourmis un peu partout, mais je ne bouge pas du tout, du tout. son petit nez fait de la musique. Une musique très sympathique. Pas des ronflements de dragon, des petites plaintes, des petits un un. Moi qui avais le sommeil si doux, je n'entends plus la nuit, le jour. Pour un comme moi, c'est trop d'amour, ça pourrait me jouer des tours. Il faudrait bien que ça me passe. De notre amour, oui, mais voilà, sûrement déjà. Je suis chocolat. Dans ses rêves, elle murmure, je t'aime. Mais elle ajoute, mon bel Étienne. Je suis pas très beau, je m'appelle François, ça me fait tout drôle. À chaque fois. Oui, mais le lendemain, je n'ose. Lui parler de l'horrible chose. Elle m'embrasse si gentiment, j'ai l'impression d'être sa maman. Qu'elle me quitte ou qu'elle meure, je ne pourrai plus dormir une heure, tellement elle a comblé mon cœur de bonheur et de malheur.
Bobby Lapointe, enregistrement maison, dans sa salle de bain, figurez-vous.
Les papous, c'est aussi dans ma tête et sur France Culture.
Et aux papous, parlons-nous de la même chose ou bien y a-t-il un malentendu entre nous ? Ça arrive parfois dans les conversations à deux. Alors imaginez à quatre si en plus on passe par l'écrit sans jamais préciser de quoi on parle. Voilà la situation. Gérard Mordia a pensé à une certaine chose. Il a écrit sur elle et puis a confié son texte à Jacques Bertrand, qui s'est fait une idée, vraie, fausse, chacun a son grain de folie. Bref, il a écrit à son tour, et ainsi de suite pour Eva Almassy. À la fin du jeu, je demanderai à Jacques Vallée ce qu'il en pense, et nous remonterons ensemble la chaîne des malentendus ou pas. Gérard Mordia, allez, on joue avec une chose, et cette chose, vous êtes le seul à l'avoir en tête. C'est vous qui l'avez choisie et vous avez décidé de la raconter d'une certaine façon. Est-ce que, par exemple, c'est la chose qui parle ?
Non, je parle d'elle parce que c'est une chose que j'aime beaucoup et donc oui. J'ai voulu faire une sorte d'éloge.
Ah, très bien. Une déclaration d'amour.
N'exagérons rien, mais presque ça. Ouais. Sa réputation n'est plus à faire. En vérité, elle a déjà plus d'une fois fait le tour de France et, toute modestie mise à part, elle a largement dépassé nos frontières. Et s'il y a concurrence sauvage dans sa catégorie, principalement dans les régions chaudes et humides, un seul d'entre eux les incarne tous comme un soleil. Il y en a des petits, des grands, des gros, des élancés, des bruns façon racaille, des blonds façon warhol, des écolos, des technos, des heavy metal, des Dubois dont on fait les flûtes. Mais cette variété s'épuise de jour en jour. Sa souche menace de s'assécher. C'est une espèce menacée. Aujourd'hui, la nouvelle génération n'hésite plus à se faire mousser, à se pousser du col, rêvant de tomber sur le poil des anciens. Mais l'histoire n'est pas écrite, car, aux abois, notre héros est capable de se mouiller et de relever tous les défis comme il les a toujours relevés. Je dis notre héros pour revenir à celui qui vaut pour tous les autres et qui, véritablement, est un héros éternel dont le nom brille au firmament. Petit, trapu, il est sans grâce particulière, mais riquet à la houppe, tout laid qu'il était, a fini par épouser la plus belle des princesses. Lui aussi, il épouse. C'est là son charme et sa qualité première. Son autre qualité, c'est la fidélité. Avec lui, c'est pour la vie. Certains, même, paraît-il, se transmettent de génération en génération. Et surtout, il assure. Il peut avoir des hauts et des bas, mais aussi rugueux soit le chemin qui s'offre à lui, ce dur à cuire endure et jamais il ne se dérobe, exaltant la vélocité, la souplesse, plus que la force. Mais cette forte tête est aussi un précieux, un élégant, dont la nacre ou l'ivoire peuvent être la coquetterie. Enfin, tout cela à condition qu'il soit en de bonnes mains.
Bon, c'est un joli portrait. Effectivement, c'est un objet que vous aimez, ça oui. Se sent. C'est un objet que vous utilisez. Enfin, c'est pas un objet qui dort dans un placard, apparemment. Il n'est pas au rebut. Hein.
Pas du tout, non, non. C'est un objet actif, vivant, extraordinaire.
Et il est du masculin.
Il est du masculin.
Oui. Jacques Vallée, entre vous et l'objet Gérard, il y a Jacques Bertrand et Val Massion. On connaît leur imagination, leur pouvoir, leur potentiel de dérivation. Est-ce que l'objet qui vous est arrivé via Jacques et Eva, surtout, ressemble un tant soit peu à ce dont Gérard Mordillat vient de nous parler?
Ben c'est ce qu'il y a d'étrange, c'est que lorsqu'il énumère sa description précise, toutes les variétés de l'objet, ouais, ça pourrait coller à 100%.
Oui.
Mais le reste, c'est assez loin.
Il y a eu des perditions.
Il y a eu des perditions.
Jacques Bertrand, vous passez derrière Gérard Mordillat, c'est comme ça. Hein.
Oui.
C'est un jour où vous passez derrière lui. Bon.
Mais c'est parce que
je lui ai toujours accordé la préséance.
Ce que j'entends par là, c'est que vous l'avez lu avant de le réentendre à l'instant, il y a une petite demi-heure, quand vous étiez en train de travailler, vous l'avez lu. Est-ce que vous l'avez décodé? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous a paru transparent, cet objet?
Transparent n'est pas le mot, mais j'ai eu une idée.
Oui.
J'ai une idée.
Vous avez aussi de la tendresse pour l'objet?
Peut-être pas exactement, mais un certain respect.
Bon, ce qui veut dire que vous n'avez pas toujours de la tendresse pour ce que vous respectez, et inversement, non, on ne peut pas faire...
Si ça m'arrive, ça m'arrive.
Ça vous arrive. Ça m'arrive. Alors, vous choisissez d'en parler de quelle façon?
Eh bien, j'en donne une petite description.
Oui.
C'est dit, on ne lui fera pas la peau. C'est plutôt lui qui la ferait aux autres. Il leur tient la dragée haute. Sa façon de se mouvoir dans l'espace ne manque ni de finesse ni d'élégance. Complice, amical, tout à son travail, c'est l'instrument de prédilection de la précision. Et pas la grosse tête comme certains. Sans prétention, non sans modestie, il n'hésite même pas à se replier sur lui-même l'œuvre accomplie. À se ranger, à se reposer dans l'attente du lendemain pour être aussi performant que la veille. Au besoin, il repassera. C'est un Attila du travail bien fait. Il est futé et même un peu plus que ça.
Ah.
Alors, toutes ces pâles imitations, ces copies non conformes, ces outils de pacotille, jetables et presque aussitôt jetés, ça ne le fait pas rire, non, car il ne rit pas souvent, mais ça le gêne. En cas de besoin, il sera toujours là, pour débroussailler.
Pour débroussailler? Ah ouais. Jusque-là, j'avais vraiment l'impression que vous parliez de la même chose. C'est votre sentiment, Gérard?
Oui, je pense que nous parlons d'objets frères.
Ah oui.
Mais pas réellement du même objet.
Ah bon?
Il y a quelque chose, une sorte de familiarité, un attachement, si je puis dire, mais ce n'est pas le même objet.
Bon. Et Val Massy, vous avez lu le texte de Jacques? Joli texte.
Je l'ai donc lu avec plaisir.
Oui, évidemment.
Quant à sa transparence, je pense que j'ai deviné.
Oui.
On verra, hein.
Et alors, à votre tour, vous en parlez? C'est l'objet qui dit jeu ou...
Non, j'en parle à la troisième personne.
Oui.
Ça me concerne un petit peu moins.
D'accord.
Pour une fois. Oui. Alors que je me sens toujours concernée partout. S'il s'ennuie, jamais il n'ennuie. S'il est nu, il dénude. S'il passe par mon et par vous, c'est en glissant gaiement ou en maugréant en cas d'accident de ski ou de skin. Il dévale toutes jambes pour un rendez-vous galant avec une jante dame ou il remonte la pente enneigée à la rencontre d'un beau monsieur, pas forcément à la page. Tout doux. Mais alors dit doux. Lui viennent des envies de massacrer, sacré objet, mais pas chose sacrée. Les icônes témoignent du contraire, même si le pape s'en sert. À ne pas mettre entre toutes les mains, à ne pas tremper dans toutes les sauces, sauf au cinéma, dans du jus de tomate ou de la gelée de groseille.
Ah, moi, je la suivais très très bien, Eva, jusqu'au jus de tomate, je dois dire. Elle a gelé de groseille, là, j'ai perdu l'objet. Jacques Bertrand parle de la même chose que vous, Eva.
C'est sûrement pas loin, oui.
C'est pas
et
loin.
Le jus de groseille, c'est le sang au cinéma.
Ah oui, et le jus de tomate aussi, oui évidemment. Évidemment, Gérard Mordillat, Eva parle de la même chose que vous.
Que moi, non. Que Jacques Bertrand, certainement. Mais que...
Entre eux, le courant passe bien.
Ah, ça marche très bien,
Passez votre texte à Jacques Vallée, on va voir. Jacques Vallée, avec des arguments, il va nous raconter quel est l'objet. En tout cas, quel est l'objet Eva Almassi, l'objet dont a parlé Eva.
Oui, j'ai retrouvé d'ailleurs en écoutant Gia Bertrand que beaucoup de détails qui me confirment que j'ai bien deviné l'objet qui a circulé.
Ah bon, oui.
Et puis dès le départ, quand Gérard dit « il y en a des petits, des grands, des gros, des élancés, des bruns façon racaille, des écolos, des technos », bon, je pense que tout ça, ça va dans ce sens-là. Alors moi, j'ai pensé, en lisant le texte d'Eva et connaissant Eva, un couteau.
Pourquoi connaissant Eva,
c'est parce que si le couteau s'ennuie, jamais ça ne l'ennuie. Et s'il est nu, il dénude. Le couteau, il sert à dépecer. Hein.
Oui, oui.
Ça peut être un poignard, mais c'est plus un couteau qui se referme.
Ah oui.
Et puis, bien sûr, ce qui m'a fait penser surtout à ça, c'est les envies de massacrer que l'ustensile a.
Oui. Bah, puis, c'est son boulot, oui, en
oui,
même temps.
Et puis à la fin aussi, tout au cinéma, le sang, le jus de tomate, la gelée de groseille, tout ça, ça m'a fait penser à
un couteau.
Un couteau, voilà.
Bon, alors, Eva Almassi, est-ce que vous avez parlé d'un couteau?
Presque, parce que quand on ennuie quelqu'un, on est rasoir, ou alors c'est la barbe, donc c'était rasoir. Pas couteau, mais c'est pas si loin que ça.
Vous pouvez justifier votre rasoir?
Bien entendu, les dames s'en servent pour les jambes, tandis que les messieurs remontent la pente enneigée, c'est-à-dire qu'il y a plein de mousse à barbe. C'est pour ça qu'il y a de la neige sur la figure.
Ah, oui.
Et puis ça passe par moi et par vous, parce que les lames suivent très bien les contours d'un visage, notamment. Voilà. Et puis bon, ce qui m'a mis sur la voie, c'est Attila, bien sûr. Moi, la Hongroise, c'est là où je passe, l'herbe ne repousse pas. Enfin, sauf que le foie repousse. Et donc, accident de ski. Alors ça, c'est toujours pour les dénivelés du visage. Ou de
rides.
Ou de skin, donc la peau. Donc là, d'accord. J'ai repris mot à mot.
Bon, c'était un rasoir. Vous l'avez pris pour un couteau. Ma foi, on est dans le même monde. Hein.
Mais Eva et le couteau, j'en ai toujours sur moi.
Mais oui, pour c'est la pour cueillette. Ça que j'ai pensé qu'Eva allait avec couteau.
Elle a un très joli couteau. Ah ouais. Jacques Bertrand, vous parliez de quoi, vous, pour que Eva Almassi prenne l'objet pour un rasoir?
Eh bien, ça n'est pas du tout le rasoir dont parle
Eva.
Eva.
Ah, c'est quoi?
C'est un rasoir couteau dont les femmes ne se servent guère, autrement appelé coupe-chou.
Ou yatagan.
Yatagan. Ah oui, c'est-à-dire que les barbiers dans les films de Laurel et Hardy, par exemple, ils vous attaquent avec ça, quoi. Enfin, voilà. Ils attaquent les hommes. Ils leur font la barbe avec ce genre d'ustensile.
Voilà.
Ah oui, donc vous avez pensé un rasoir très particulier. Bon, Eva n'avait peut-être pas cette connaissance du yatagan, comme vous dites, chère Armandia.
Eva parle plutôt des copies que je dénonce. Ces outils de pacotille, jetables et presque aussitôt jetés.
Ouais, contrefaçon presque.
Le rasoir, le coupe-chou à côté, c'est le rasoir noble.
Ah oui, et Gérard Armandia, vous pensiez au coupe-chou?
Non, absolument pas.
Vous pensiez à quoi?
Mais je pensais à une chose qui est indiquée dès la première phrase. Sa réputation a déjà plus d'une fois fait le tour de France. Qu'est-ce qui peut avoir plus d'une fois fait le tour de France et être un objet?
Ou
avoir
vélo,
un nom d'objet?
Un vélo.
Mais non, pas un vélo, un cycliste. Et quel est le cycliste qui a comme surnom un nom d'objet et qui a
le
fait...
Blaireau.
Le Blaireau, voilà.
Ah, notre immense champion.
Voilà.
Bernard Hinault.
Bernard Hinault, voilà. Le Blaireau.
Donc vous...
J'ai parlé d'un Blaireau.
Donc j'étais tout prêt, parce tout que
prêt.
Le rasoir, le Blaireau...
Ah,
ben
moi aussi,
Blaireau.
Avec la neige, la mousse.
Oh là là.
Eh bien, vous avez parlé, Eva, de ceux, justement, de la nouvelle génération qui n'hésite pas à se faire mousser.
Oui.
Voilà, rêvant de tomber sur le poil des anciens. Et quand je dis il y a des petits, des grands, des gros, etc., etc., des blaireaux, il y en a toutes les sortes. Et façon Warhol, c'est ceux qui sont en plastique, avec le poil tout blanc en plastique.
Mmh.
Mais les vrais blaireaux sont en poil dru, noir, etc.
Ou marron. Donc,
Ou marron.
Et moi, rose, mais c'est pour mettre la poudre, c'est pas pour...
Ah non, mais c'est pas tout à fait...
Si, j'ai acheté un blaireau.
Ça s'appelle
rose.
Quand même un blaireau.
Exactement. Non, une houppette.
Non, j'ai des houppettes et j'ai mon blaireau rose.
On est quand même dans la cohérence. Hein. Évidemment, avec Gérard Mandier, il y a un élément sportif. C'est le Tour de France, c'est Bernard Hinault. Donc le blaireau, il a joué un petit peu sur les deux. Le blaireau de Gérard a été pris pour un rasoir coupe-chou. Moi, je ne connaissais pas le terme coupe-chou. Hein, pour les rasoirs, enfin bon, on n'a pas besoin de se raser beaucoup.
Et moi, les déchèves.
Et vous, donc, du rasoir, hein, oui, pour Eva. Et carrément un couteau. Alors, ceux qui se rasent au couteau avec Jacques Vallée, mon Dieu, attention.
Des Romains.
Ah, oui, il faut avoir une peau solide. Hein. C'est pour ça que Jacques Vallée a une barbe, il ne se rase jamais.
Et quand on vous rasait au coupe-chou, le barbier vous demandait s'il vous rasait au pouce ou à la cuillère.
Ce qui signifie ?
Eh bien, au pouce, il vous mettait le pouce dans la bouche pour tendre la peau. Et c'était moins cher qu'à la cuillère. À la cuillère, il mettait une cuillère. C'était plus distingué.
En argent. Pour que la joue se gonfle.
Pour qu'elle soit tendue, pour mieux raser.
Oui, pourquoi vous coupez un morceau de joue en même temps ?
Ah oui, mais vous avez déjà eu l'expérience, non ?
Non, mais j'ai vu faire mon père.
Ah oui, il faisait ça à la cuillère, lui ?
Non, il faisait ça à la main.
Ses bras, elle me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon corps.
La vie en rose. Et c'est le retour des jolis dimanches dans les papous, les jolis dimanches à la manière de... Alors après le joli dimanche de Dominique Muller façon Dante, celui de Lucas Fournier. Et quel joli dimanche, Lucas ?
Le joli dimanche de Raymond Devos. Ah,
belle idée !
Dimanche, je vais chez mon boucher. Je lui demande comment ça va. Il me répond, ça va comme un dimanche. Je lui dis non. On dit « comme un lundi ». Ça va comme un lundi. Il me répond « oui, mais moi je suis fermé le lundi ». Alors je peux jamais le dire que ça va comme un lundi. Ah, je lui dis « alors là, mon vieux, vous passez à côté de quelque chose ». Quoique, j'ai eu une illumination. Vous pourriez quand même le dire. Ce soir, dimanche à minuit, là vous pourriez dire, comme ça, vite fait, bien fait, ça va comme un lundi, puisqu'on sera encore le dimanche, mais déjà le lundi. Il me répond, oui mais moi le dimanche à minuit, je dors. Bon, je vois que vous êtes ennemi du dialogue, mettez-moi un gigot d'agneau, hein. Mais pas comme celui de dimanche, la semaine dernière il était trop gras. D'habitude c'est le mardi qui est gras, il me répond, et il ajoute, tenez, voici votre commande. Allez, je vous souhaite un joli dimanche. Bon alors là, c'est trop fort. Depuis 18 ans, vous me souhaitez un bon dimanche. Et là, ce matin, tout à trac, vous me le voulez joli. Ah, je vois que vous avez le sens de la nuance. Pourquoi vouloir passer du bon dimanche au joli dimanche ? entre le bon et le joli. On est au-delà de la césure. Vous avez une justification pour cette rupture épistémologique ? Et vous savez ce qu'il me répond ? Non. Bah, tout aussi bien, je vous aurais souhaité un beau dimanche, c'est pareil. Non.
Non.
C'est grave pour un boucher si vous ne faites pas la différence. C'est une faute professionnelle. Votre gigot est beau, mais rien ne dit qu'il est bon. Et même si le gigot est beau et bon, si jamais les flageolets sont trop cuits, ça sera pas joli joli, et à l'arrivée, j'aurai un vilain dimanche. Alors il me fait, soyez tranquille, ça n'arrivera pas. Le voilà, votre gigot. Vous m'en direz de jolies nouvelles. Allez, heureux dimanche. Heureux ? Mais ça, c'est encore autre chose. Il y a une dérive sémantique. Ah, excusez-moi, fait le boucher, j'ai du monde. On taillera la bavette une autre fois. Je suis rentré perplexe à la maison. Le dimanche serait-il bon, heureux, beau ou joli ? Et puis, vous savez quoi ? C'est là que j'ai réalisé qu'à la place du gigot, il m'avait fourgué un cuisseau de veau. Un foutu dimanche.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du jour à suivre. Jusqu'à 13h59, le droit de réponse et le diagnostic littéraire à l'aveugle. Le piégeur sera Patrice Minet, les experts Dominique Muller, Eva Almassi, Jacques Vallée et Patrick Beignet. Mais avant de se laisser piéger ou pas, on ne sait pas encore, par Patrice Minet, Patrick Beignet nous propose le droit de réponse d'un personnage de fiction. Les personnages sont les créatures de leurs auteurs. Pas question pour eux d'infléchir le cours de l'histoire. Et pourtant, ils rêvent parfois de petits aménagements, de surprises, ne pas toujours subir le même quotidien au fil des pages. L'envie d'être un autre, comme dans la vraie vie. Vous représentez un personnage, Patrick Beignet. Son droit de réponse s'adresse à qui ?
S'adresse à Jules Verne.
Ah oui ?
Cher auteur... J'allais dire « cher auteur de mes jours », mais c'est pas vraiment cela. Auteur de « mon jour », c'est un peu bizarre. Alors, auteur de nos 80 jours ? Oui, mais là, justement, est tout le problème. Je réclame un peu de justice. Tout repose sur moi dans ce « Tour du monde en 80 jours », un de vos romans qui ont obtenu le plus de succès. Et pourtant, dans ce roman, tout est fait pour me faire oublier du lecteur, pour m'ignorer, me refouler, m'enterrer, de la même façon que le trop désinvolte héros m'ignore et m'oublie jusqu'aux dernières pages. Sans moi, pourtant, tout votre livre s'effondrerait, comme s'effondre la pyramide humaine au cirque de Yokohama, quand Passepartout se retire brusquement de l'édifice des longs nez. J'espère que vous vous souvenez de votre livre. Sinon, vous dépensez, j'écris n'importe quoi. Les longs nez, rappelez-vous la troupe acrobatique de l'honorable William Batulcar. Si donc, vous vous souvenez de votre tour du monde en 80 jours, vous m'avez reconnu, je suis bien sûr le jour fantôme, comme m'a baptisé Jean Cocteau dans un livre assez amusant où il recommence notre voyage. Mais j'ai pas retrouvé le livre dans ma grande bibliothèque. Même les jours fantômes ont des bibliothèques, sachez-le. Vous me direz que cette appellation de jour fantôme, c'est pas très valorisant. Mais ça vaut mieux que celle que vous me donnez quand, in extremis, vous êtes bien forcé de me désigner. Alors, vous m'appelez une erreur. Je suis une erreur. On n'est pas plus aimable. Voilà donc ce que je suis à vos yeux sur le plan ontologique. Eh oui, voilà comment vous me traitez, moi le miraculeux héros de cette histoire, de ce tour du monde en 80 jours. Soit dit en passant, un gros mensonge que ce titre qui manie les manéantis au nom de votre bizarre arithmétique. 80 plus 1 égale 80. Croyez bien qu'un jour fantôme n'est pas plus vaniteux qu'un jour ordinaire, que je ne suis pas spécialement imbu de moi-même, croyez-le bien. Et je ne prétends pas que votre livre devrait s'appeler « Le tour du monde en un seul jour » ou « Un seul jour vous manque et tout est fichu » ou « Un pour tous, tous pour un ». Mais je refuse d'être réduit au rang d'erreur ou de voir mon existence traitée en 7 lignes pseudo-scientifiques particulièrement confuses à la fin du livre, au moment où Phileas Fogg, le dieu de l'exactitude, comme vous osez l'appeler, gagne son pari en se trompant de 24 heures. À cet instant, l'erreur que je suis devient, dans votre style inimitable, un jour inconsciemment gagné. Me voilà bien, encore une fois. Oui, charmant, hein. Ne pourriez-vous arranger un peu les choses, améliorer mon triste sort fantomatique, me donner un rien d'existence légale? Ou faire partir votre dieu de l'exactitude dans l'autre sens, vers l'est, rien qu'une fois, pour voir si là aussi, dans ce sens-là, il n'y a pas de fantôme? Votre jour fantôme.
Alors moi, je suis vraiment navrée parce que je me souviens pas du tout du jour fantôme dans le tour du monde.
C'est affreux. C'est le cas, oui.
Ben, on découvre. S'il arrive, il a l'impression d'avoir perdu.
Mais oui.
Et puis, parce qu'il arrive après les 80 jours.
Il a dépassé les 80 jours.
Et en plus, et alors il s'aperçoit qu'il a oublié un jour.
À cause des décalages horaires successifs.
De la rotation de la Terre. Dans ce sens-là.
Oui, mais j'avais...
Enfin, je peux vous lire l'explication.
Oui, s'il vous plaît, oui.
Vous allez certainement comprendre. En effet, en marchant vers l'est, Phileas Fogg allait au-devant du soleil et, par conséquent, les jours diminuaient pour lui d'autant de fois 4 minutes qu'il franchissait de degrés dans cette direction.
Oui.
Vous êtes d'accord,
hein ?
Or, on compte 360 degrés sur la circonférence terrestre. Et ces 360 degrés multipliés par 4 minutes donnent précisément 24 heures, c'est-à-dire ce jour inconsciemment gagné. En d'autres termes, si Françoise n'avait pas tout compris, pendant que Phileas Fogg, marchant vers l'est, voyait le soleil passer 80 fois au méridien, ses collègues restés à Londres ne le voyaient passer que 79 fois. C'est pourquoi ce jour-là même, qui était le samedi et non le dimanche comme le croyait Mr. Fogg, ceux-ci l'attendaient dans le salon du Reform Club.
Mais oui.
Ça vous revient ?
Oui.
J'ai bien fait de ne jamais lire ça.
Tu pourrais faire le jeu dimanche de Phileas Fogg.
Le jeu dimanche fantôme de Phileas
Fogg. I won't grow up. I don't want to go to school. Just to learn to be a puppet. Recite a silly rule. If growing up means it would be beneath my dignity to climb a tree, I won't grow up, won't grow up, won't grow up, not me. I won't grow up. I don't or a serious expression in the middle of July. And if it means I must prepare to shoulder burdens with the worry there, I'll never grow up, won't grow up, never gonna grow up. Gonna be a man. I won't like to see somebody try and make me anyone who wants to try and make me turn into a man. Catch me if you can.
Je veux pas grandir, je veux pas porter de cravate, je veux pas avoir l'air sérieux. Tout ça, c'est Ricky Lee Jones qui le disait. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, le DLA, un bout de littérature pioché dans un livre par Patrice Minet. Un roman, un essai, une nouvelle, une autobiographie, du théâtre, on ne sait pas. Lui seul sait, il est maître du jeu. Et ce morceau de littérature, eh bien, il le soumet à l'aveugle à quatre experts, doués ces experts, puisqu'il s'agit de Dominique Muller, Eva Almassi, Patrick Beignet et Jacques Vallée. Ils analyseront les lignes qui leur sont proposées, tenteront de répondre aux questions qu'on se pose forcément face à un texte anonyme pour finalement avancer un nom d'auteur possible. Ils prennent des risques, ils sont courageux et puis tout ça n'est qu'un jeu, mais un jeu de culture, même pas peur de l'échec. Patrice Minet, quand il est expert, il est très malin et quand il endosse le rôle de piégeur, il l'est tout autant. Méfiance. On joue, vous jouez avec nous. C'est le moment du diagnostic littéraire à l'aveugle. Patrice Minet, vous lisez, on écoute sagement.
C'était un métier de tout repos et j'emportais toujours un pique-nique avec moi. Nous attaquâmes au large de Chypre un sous-marin servi tout chaud à la surface et le manquâmes. Nos charges de profondeur étaient tombées trop loin. Je peux dire que depuis ce jour, je connais le sens du mot « remords ». De nombreux films et de très nombreux romans ont été consacrés à ce thème, celui du guerrier hanté par le souvenir de ce qu'il a commis. Je ne suis pas une exception. Encore aujourd'hui, il m'arrive de me réveiller en hurlant, couvert de sueur froide. Je rêve que je viens de rater une fois de plus mon sous-marin. C'est toujours le même cauchemar. Je rate ma cible, je n'en vois pas au fond de l'eau un équipage de 20 hommes, équipage italien par-dessus le marché. Et pourtant, j'aime beaucoup l'Italie et les Italiens. Le fait simple et brutal est que mon remords et mes angoisses nocturnes tiennent au fait que je n'ai pas tué, ce qui est extrêmement gênant pour une belle nature. Et je demande humblement pardon à tous ceux que j'offense en faisant un tel aveu.
Ça ressemble à une bataille navale, non, Dominique Müller? Ça ressemble à un jeu? Qu'est-ce que vous pensez?
Ah non, moi je dirais non. Plutôt que c'est le texte d'un antimilitariste, n'est-ce pas?
Ah oui.
Un antimilitariste qui écrit très mal.
Qui par c'est ailleurs n'écrit pas en français peut-être, oui.
Ah, pas directement.
Oui, parce que c'est, en effet c'est assez heurté comme tournure de phrase.
Mm-hmm. Jacques Vallée, première impression.
Ben, c'est un écrivain, c'est certain, qui a fait la dernière guerre dans l'aviation. Et qui était chargé de bombarder.
Ouais.
Donc c'est un récit. Il n'y a pas tellement d'écrivains qui ont été aviateurs à la dernière guerre. Donc il faut faire déjà essayer de trouver quels sont les écrivains qui ont été aviateurs.
Ah oui.
Puisque il bombarde un sous-marin, il le loupe.
On n'a pas Google là en studio, hein.
Oui.
Donc il faut trouver dans nos têtes.
Oui, mais il faut essayer de trouver ça, c'est tout.
Vous pensez que c'est ça la clé du mystère?
Oui, avec en plus que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui s'amuse et qui parle de pique-nique, de sous-marin servi tout chaud. C'est comme si c'était un jeu. Il s'amusait dans ses souvenirs.
D'accord. Voilà. Patrick Beignet, votre impression?
J'aime pas ça, donc ça contamine un peu toutes mes impressions.
Oui, vous trouvez que c'est mal écrit?
Oui,
enfin,
encore aujourd'hui, il m'arrive de me réveiller en hurlant, couvert de sueur froide. Ah, c'est même pas écrit. Alors, est-ce que c'est autobiographique, comme le suppose Jacques Vallée, qu'il faille faire le décompte des écrivains aviateurs? Je suis pas sûr. Ouais, c'est peut-être simplement de la mauvaise fiction.
Mm-hmm.
Voilà, moi, je trouve qu'il y a une tentative de comique qui, pour moi, s'intègre mal au contexte.
D'accord.
Probablement parce que c'est mal écrit.
Bon, alors ça, c'est très violent, mais c'est la violence de Patrick Beignet.
Bon, la guerre est violente.
La guerre est violente, elle est heurtée, comme l'a dit Dominique, oui. Votre sentiment, Eva Almassi, sur ce petit bout de littérature, comme ça, de prime abord?
Ah ben, on veut faire de l'humour avec un thème lourd et difficile qui est la guerre et qui donc contrevient aux 10 commandements et en particulier au premier, tu ne tueras point. Et j'ai parlé une fois à un écrivain qui disait que c'est curieux que ne pas tuer ne fasse pas partie des droits de l'homme. Donc on peut être objecteur de conscience, mais on ne peut pas, si on est enrôlé, on ne peut pas refuser de tuer. Et je pense que c'est un petit peu la même idée. Donc il nous présente la tuerie comme un métier, dit-il, de tout repos, d'autant que le sous-marin vient en surface et s'offre à ses bombes. Et c'est quand même le ratage qui donnera des cauchemars plus tard. Ça n'est pas « Ah, j'ai sauvé 20 vies ». Je pense que c'est sur le mode ironique, bien sûr.
Ouais. Dominique, vous avez l'air d'approuver.
Oui, bien sûr. Enfin, il se veut ironique, j'imagine. Mais alors, je me demande si l'histoire de nombreux films et de très nombreux romans ont été consacrés. Ne serait-ce pas les mémoires d'un réalisateur hollywoodien? Vous voyez, qui ferait partie de ce monde, qui ne tenterait pas de faire du style et qui, en parlant de sa jeunesse, se retrouverait, donc là, ce serait la guerre de 18, enfin, où il y a eu beaucoup de guerres. voilà, donc je ne sais pas trop. Mais Chypre, Palestine, tout ça, c'est... Voilà. Et donc, il raconte sa jeunesse.
Où il a été aviateur, comme a dit Jacques Vallée. Et maintenant, il écrit, il réalise.
Et maintenant, il est, je ne sais pas, moi, n'importe quel réalisateur... assez célèbre pour qu'on lui ait demandé d'écrire ses mémoires.
Au producteur,
au World Jokes. Oui, voilà, ou Cucor, ou je ne sais qui, enfin quelque chose comme ça.
C'est une bonne idée, non, Patrick Beignet ?
C'est une très très bonne idée, oui.
Oui, c'est pas la vôtre.
Merci, Patrick.
Si, enfin, c'est le genre d'idée qui occulte toutes les miennes. Donc, je ne peux plus
comme
penser.
Comme d'habitude, Patrick.
Voilà, ouais.
Et quelles sont les vôtres ?
Ben, je ne sais plus.
Ça se passe à quelle époque ? Je ne veux pas parler de la situation, je veux parler de l'écriture.
Les mauvais écrivains sont de toutes les époques.
De tout temps, oui.
Oui, mais enfin, c'est pas le Moyen-Âge avec les avions.
Ça peut pas être le Moyen-Âge.
Alors, il y a un côté carbone 14 quand même pour dater, oui.
Écoutez, moi, j'aurais mis ça spontanément dans les années 50.
Oui. Vous êtes d'accord, Eva ?
Oui, 50-60, oui, par là.
Oui, j'ai connu aussi.
Et puis, peut-être de... Dominique a parlé d'un cinéaste, peut-être c'est une traduction, peut-être un étranger, ça ne sent pas le terroir comme écriture.
Donc c'est un écrivain aviateur, comme vous l'avez dit, étranger.
Et qui faisait partie des alliés, puisque l'Italie est un ennemi.
Oui, c'est pas un russe.
On progresse énormément.
Je ne suis pas pour l'écrivain aviateur. Le narrateur est visiblement aviateur. Peut-être aviateur assez amateur, d'ailleurs.
Oui, peut-être.
Il n'a pas l'air très sûr de lui.
Oui, parce qu'il loupe ses bombardements.
En même temps, il est tellement sûr qu'il emporte son pique-nique.
Ça appartient à quel genre de littérature, Dominique ? Alors,
c'est une autobiographie des souvenirs. Essayant de prendre à la blague cet épisode de la jeunesse.
Et pour Patrick Beignet ?
Pour moi, c'est un roman. Je suis très séduit, encore une fois, par l'hypothèse...
La prochaine fois, je ne voudrais pas passer après elle.
Ah non, mais au contraire, c'est très pratique, ça donne des idées. Je pense que c'est un auteur qui est un romancier tenté par la parodie. Mais qui se prend les pieds dans son histoire, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à jumeler la gravité des événements qu'il essaie de raconter et le ton dégagé. Tiens.
Peut-être parce qu'il n'est pas habitué à la parodie, justement, qu'il s'essaye.
C'est ça, voilà.
C'est ça, donc ça pourrait être un écrivain sérieux qui essaie d'être rigolo pour une fois.
Oui, on peut le prendre comme ça.
C'est peut-être un homme politique.
Ah. Oui, j'y avais songé aussi.
Oui, ils n'écrivent pas comme ça, quand même.
Non, pas Winston Churchill, mais...
Voilà, c'était le premier nom qui m'était venu, mais c'est impossible qu'ils prennent à la blague ce genre de...
Oui, moi je pense à Churchill, je le vois écrire ça, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas où il aurait été chercher ça.
Qu'il écrive ça à la rigueur, mais qu'il le publie,
c'est plutôt ça, oui. Si on réécoutait ce texte, Patrice Minet.
Je repris ma place dans l'escadrille et me livrais à une paisible chasse aux sous-marins italiens au large de la Palestine. C'était un métier de tout repos et j'emportais toujours un pique-nique avec moi. Nous attaquâmes au large de Chypre un sous-marin servi tout chaud à la surface et le manquâmes. Nos charges de profondeur étaient tombées trop loin.
Oui, mais c'est parce que aussi Patrice Minet le pousse vers la rigolade.
C'est là quand même.
C'est possible, oui.
Je peux dire que depuis ce jour, je connais le sens du mot « remords ».
Il le dit comme ça pour nous faire rire, alors évidemment.
De nombreux films et de très nombreux romans ont été consacrés à ce thème, celui du guerrier hanté par le souvenir de ce qu'il a commis. Je ne suis pas une exception. Encore aujourd'hui, il m'arrive de me réveiller en hurlant, couvert de sueur froide. Je rêve que je viens de rater une fois de plus mon sous-marin. C'est toujours le même cauchemar. Je rate ma cible, je n'envoie pas au fond de l'eau un équipage de 20 hommes, équipage italien par-dessus le marché. Et pourtant, j'aime beaucoup l'Italie et les Italiens. Le fait simple et brutal est que mon remords et mes angoisses nocturnes tiennent au fait que je n'ai pas tué. Ce qui est extrêmement gênant pour une belle nature. Et je demande humblement pardon à tous ceux que j'offense en faisant un tel aveu.
J'aimerais bien l'entendre dit avec une certaine gravité. Parce que là, on dirait Tanguy et la verdure.
Je pense que l'interprétation convient parfaitement à ce texte. Cette fois, j'ai bien entendu de nombreux films et de très nombreux romans ont été consacrés à ce thème. Et un petit peu plus loin, je ne suis pas une exception. Mais là, j'entends le romancier et pas le, c'est l'aveu du romancier qui écrit un énième livre sur le sujet. Mm-hmm. C'est pas un cinéaste. Le très nombreux roman est souligné en rouge deux fois.
Oui, Dominique.
Au contraire, moi, je vois une fois de plus le cinéaste qui ne parle peut-être pas de la guerre en général, mais qui profite du fait de dire voilà comment moi j'ai fait la guerre, mais qui parle surtout d'une certaine façon des meurtres, si vous voyez où je veux en venir.
Pas du tout, non.
par exemple, il y a Couvert de sueur froide.
Ah, mon Dieu, oui, oui,
et
oui.
En fait, il explique ce que c'est que le remords de n'avoir pas tué. Oui. Donc, c'est, on pourrait imaginer un entretien sur ce qu'est justement enfin, le crime, le meurtre.
Est-ce que, Patrick Beignet, oui, je sens que vous avez des choses à nous dire.
Oui,
là,
oui,
maintenant.
Comme toujours, François. Oui. Moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est la mauvaise qualité du style.
Oui.
Et
oui.
C'est tellement lourd et mauvais que c'est, je finis par penser que c'est délibéré. Donc, ce n'est pas traduit.
Oui.
Mais pour moi, je rangerais ça dans ces pseudo-romans américains qui ont fleuri dans les années 50, dans l'après-guerre. Hein. Et dont, bon, il y a des exemples célèbres de Boris Vian, par exemple.
Ah, mais il écrit bien, Boris Vian.
Il écrit trop bien.
Il n'y a plus de légèreté.
Enfin, chacun son point de vue, évidemment. Oui. Allez au bout de votre pensée. Oui,
il a fait des romans imités de l'américain.
Absolument. Oui.
Et ils sont superbement bien écrits.
Je ne sais pas lu récemment, mais...
Il garde son vocabulaire, il n'est pas deux fois raté.
Non, mais c'est le point de vue de Patrick Beignet.
Oui, et Patrick Beignet n'a pas dit que c'était de Boris Vian. Il dit que c'est une sorte de sous-genre qui fleurit dans l'après-guerre, une imitation d'une littérature étrangère et surtout américaine.
Si c'est, par exemple, de la littérature tchèque et non pas anglo-saxonne et non pas l'Amérique en particulier, ou des imitations de romans américains, à ce moment-là, on voit très bien le personnage qui se vante. En fait, ça devient de la vantardise. Mmh. Et il n'est pas obligé de bien écrire puisque c'est un style oral, du coup. Et plus c'est lourd, et plus on a de l'effet comique.
Ah, on progresse là, non?
Oui, Jacques Vallée.
Oui, mais je ne vois pas quelqu'un de... Enfin, une pensée slave derrière ce texte.
Non.
Non, je trouve que ça pourrait être dans une nouvelle, un souvenir dans un recueil où il y a des nouvelles et puis des... Et c'est peut-être aussi inventé, hein. Quelqu'un qui invente une situation dans une nouvelle et puis qui raconte un épisode de la guerre. Enfin, mais je ne vois pas un grand roman slave derrière ça.
Bon, on va peut-être donner des noms. Hein, Dominique Müller, puisque vous avez un nom de réalisateur sur le bout de la langue depuis le début.
Oui, évidemment, je pense à Hitchcock. Par exemple, les entretiens avec Truffaut, où il expliquerait comment un personnage tout à fait banal peut se trouver dans une situation où tuer est normal. Ça le travaillait beaucoup. C'est beaucoup de questions qu'on lui posait.
Voilà. C'est une très bonne idée.
Et sinon, je pensais aussi dans un tout autre, pour suivre mes camarades, s'il s'agissait d'un roman, il y a eu un roman un peu oublié, Dieu et son âme, l'âme de l'auteur, qui s'intitule Le bar de l'escadrille. Et donc, c'est l'escadrille, n'est-ce pas, qui m'a fait penser?
Oui.
Où des tas d'aviateurs sont là-haut, dans un bar, en train de se vanter, précisément. Mmh. C'est un roman de François Nourricier, donc.
Ah, très bien.
Et je pense que notre ami Minet est assez sournois pour nous avoir apporté un roman pourri de François Nourricier.
Une idée
je vais suivre la piste tchèque que j'ai évoquée avec Hachek, donc, et son brave soldat Schweik.
Il y avait déjà des avions?
Je n'en sais rien. Là, vous me confondez terriblement avec vos bombes, vos charges de profondeur.
Voilà. C'est ça.
Je pense que oui.
Bon, c'est une bonne idée, peut-être. Jacques Vallée.
Alors, il y a plein d'idées qui m'ont traversé. Déjà, dès que Dominique a parlé de producteur, j'ai pensé à Hitchcock, naturellement, tout
à
de suite.
Aussi,
je l'ai noté, mais comme j'ai pris la position différente, si c'est quelqu'un qui raconte ses mémoires, ça peut être quelqu'un comme Klosterman ou Romain Gary, peut-être, parce que c'est des gens qui ont été dans cette position pendant la guerre. Mais moi, comme j'ai été vers la traduction, je dirais Laurence Duren.
pas impossible.
Quel styliste, Laurence, tu ferais.
Oui, mais c'est, si c'est une traduction.
Mais il y a d'excellentes traductions.
J'ai tout lu en traduction.
Vous avez tout lu en français.
Vous avez tout lu dans des lettres.
C'est peut-être son opinion. Hein.
Ça peut être des lettres, ça peut être des choses chiffonnées.
Des lettres, aminaires, il écrivait. Elles ont été publiées, je les ai lues.
De toute façon, vous défendez votre point de vue. Et Eva a le droit de dire qu'elle n'est pas d'accord avec vous. C'est le jeu, quand même. Parce que si tout le monde était toujours d'accord, ce serait pas très drôle, la vie. Hein. Et vous, Patrick Beignet ?
Écoutez, j'ai une double direction possible.
Oui.
Poursuivre Dominique dans son grand rêve américain, là, Hitchcock, ça me paraît pas du tout possible. Mais
bah, alors, tant mieux pour vous.
Oui, oui.
On va très fâché de ce DLA aujourd'hui.
Il me semble que ce serait quelqu'un comme Samuel Fuller, par exemple, dont on sait qu'il a fait la guerre en Italie, etc. Hitchcock aurait fait la guerre, ou c'est une fiction?
Oui, c'est un exemple qu'il donne.
D'accord, oui. Alors, je me rabats prudemment sur une autre hypothèse. C'est certainement pas ça, mais ça donne un peu la direction où je chercherais. Ça pourrait être quelque chose de Malaparte.
Ah, bien sûr.
Dans le côté excessif, dans le
pourquoi
côté...
Pourquoi est-ce qu'il irait tirer sur des Italiens?
Mais, pourtant, j'aime beaucoup l'Italie et les Italiens. Oui, mais dans le grand chaos qu'est l'Europe qu'il connaît et qu'il décrit, tout est possible.
Oui, sauf
Et puis, est-il vraiment italien, Malaparte?
Oh, c'est un personnage.
Il a joué.
Oui, sauf que Malaparte a été correspondant de guerre, mais il n'a pas été... acteur.
Oui, oui, c'est bien pour ça que je dis que c'est une sorte d'hypothèse que je fais pour montrer la direction.
D'accord. Non, mais vous voyez, Eva n'était pas d'accord avec vous, vous n'êtes pas d'accord avec Patrick Beignet.
Mais non, mais Eva dit, pourtant, Durène écrit bien, mais je n'ai pas dit que Durène écrivait bien. Il y a un problème de traduction.
N'empêche que moi, j'ai l'hypothèse que les écrivains qui écrivent bien écrivent toujours bien. D'écrire mal.
Alors ça, c'est un vaste débat à creuser un jour. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord, et c'est pas grave. Hein.
Puis-je ajouter un mot, peut-être Miller. Que tout le monde va dire « Ah, mais bien sûr !» Il y a aussi Joseph Kessel, dont c'est assez le genre.
Oui.
Le genre baroudeur.
Mais là, trois noms, ça fait beaucoup. Hein.
Oui, mais je le donne à quelqu'un, Joseph Kessel.
Comme ça, en l'air.
En l'air.
Bon, alors, je résume la situation pour tous. Dominique Muller penche pour Alfred Hitchcock, ou François Nourricier.
La palette est vaste.
Il y a un grand écart, mais bon, pourquoi pas. Eva Elmassi pour Hachek, l'auteur du brave soldat Schweik. Jacques Vallée, ma foi, a l'air de tenir à Laurence Durel. Hein, et il nous ferait presque croire que c'est lui, d'ailleurs. Parce qu'il a un pouvoir de conviction, Jacques Vallée. Et Patrick Beignet, eh ben, il sent du mal à part. Alors, est-ce que déjà dans cette liste de noms, Patrice Meynet, il y a un nom en commun avec votre propre liste?
Non.
Mais, c'est dommage. Alors, il y a eu aussi la petite hypothèse Joseph Kessel de Dominique, non plus.
Non, mais des noms ont été cités, des noms qui appartiennent à ma liste.
Ah.
Dans la discussion.
Ah. Alors?
Alors, je vous propose Boris Vian, Romain Gary et Roland Dubillard.
Ah oui. Alors, évidemment, Boris Vian a été cité par Patrick Beignet, Romain Gary par Jacques Vallée, Roland Dubillard par personne, mais Roland Dubillard, il écrit merveilleusement bien. Il est drôle, bien sûr. Il était drôle. Mais, bon, mais pourquoi pas ça vaut la réflexion. Dominique Muller. Qui veut réfléchir en premier? Alors peut-être... Patrick Beignet, je me tourne vers vous, puisque vous aviez émis tout de suite l'hypothèse, non pas l'hypothèse Boris Vian, mais vous aviez dit que ça pouvait ressembler un petit peu à Boris Vian imitant les auteurs américains.
Et une littérature de ces années, ces années de l'après-guerre.
Oui.
Eh bien, écoutez, je vais un peu paresseusement reprendre ce nom que j'avais révoqué tout en le citant.
Oui.
J'ai du mal, même si Romain Gary n'est pas toujours un styliste très très raffiné, j'ai quand même du mal à imaginer qu'il ait pu écrire, qu'il se réveillait en hurlant couvert de sueur froide.
Ouais.
Ça ne peut être que parodique.
Ouais.
Et c'est là où je reviendrai à Vian.
D'accord. Un Boris Vian. Dominique Muller.
Un Boris Vian.
Un deuxième.
Je suis convaincue par Patrick.
Ah oui. Vous êtes sous influence là.
Je suis, oui. Sous l'influence de Patrick, toujours aussi.
Eva Almassi.
Ben moi, j'élimine ceux que je connais et que j'ai lus, c'est-à-dire Vian et Gary, et je vais prendre du billard que je connais pas, mais qui, dans mon esprit, est le plus proche de Hachek, voilà, dans son statut d'écrivain. Voilà, donc c'est un Hachek français.
Ah oui, il faudra que vous lisiez du billard quand même un jour.
Oui, oui, oui.
J'ai tout du billard chez moi, je vais vous les prêter.
Volontiers.
Alors, bon, un du billard, Roland.
Moi, je vais dire Romain Gary, je vais le garder.
Pour vous, Jacques Vallée, ben oui, vous l'aviez nommé tout à l'heure.
Voilà. Donc
vous avez un petit argument pour quand même, vraiment.
Mais c'est-à-dire, je me demande si c'est vraiment Romain Gary. Je pencherais aussi pour du billard, mais je ne peux pas en prendre deux, c'est donc je me maintiens à Romain Gary.
C'est peut-être Émile Ajar, alors.
Oui, c'est
exactement, exactement. Bon, bah écoutez, nous avons donc deux Boris Vian, ce sont les choix de Patrick Beignet et de Dominique Muller, un Romain Gary pour Jacques Vallée, un Roland Dubillard pour Eva Almassi, il y a forcément un ou deux gagnants. Patrice Minet.
Il y en a un.
Ah, ah donc. Donc ce n'est pas Boris Vian. Hein.
Et non, hélas. Mais c'est, et je dis hélas parce que, à mon sens, il aurait pu écrire ça. Mais Romain Gary a écrit ça. Ah. Et c'est dans un très joli roman qui s'appelle Claire de femme.
Ah bon ?
Que j'ai lu pourtant.
On a lu Claire de femme.
On a tous fini.
Qui est un roman qui n'est pas sur la guerre, qui est à la fois un roman et une autobiographie, parce que c'est soi-disant une autobiographie. Et il y a des tas de passages bien inventés. Mmh. Et qui est un roman qui n'est pas sur la guerre, mais qui est un roman sur sa mère et sur la vie qu'il a menée.
C'est une guerre aussi, oui.
C'est une guerre aussi, oui. Voilà. Oui. Et donc, il a été aviateur, effectivement, ouais. Romain Gary. Et dans ce passage, en fait, il se moque un petit peu de lui-même, de l'aviation, de la guerre. Il se moque, dans ce roman, il se moque un petit peu de tout. Parce que, au fond, sa vie a été conduite par les injonctions de sa mère qui voulait qu'il devienne quelqu'un.
Oui, c'est l'éducation européenne.
Voilà. Il a voulu faire plaisir. Et donc, il raconte ça. Et c'est, moi, je trouve que c'est un très joli livre. Effectivement, ce n'est peut-être pas un très grand styliste, mais il y a des.
De Patrick Beignet.
Oui. Il y a des. Moi, je trouve que c'est pas un styliste et je trouve que c'est admirablement écrit. C'est-à-dire qu'il y a des choses très profondes qui passent dans une écriture très simple. Et même des fois, un petit peu, c'est un petit peu redondant. Des fois, on trouve que c'est lourd. Mais en fait, derrière tout ça, il y a des choses assez émouvantes. Voilà. Et c'est un très beau livre.
Mais alors, Jacques Vallée, vous êtes fier, hein ? Ben, oui. Vous êtes heureux, hein ?
Dès le départ, j'ai pensé que c'était un aviateur qui avait une expérience.
Oui, un écrivain aviateur, vous avez dit. Oui. Bah, qu'est-ce qu'on lui dit, hein?
Bravo.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Pierre Mine. À télécharger rubrique podcast sur franceculture.fr pendant un an. À réécouter 1000 jours à la page des papous, page sur laquelle vous pouvez déposer vos questions, remarques, essais sur les jeux papous, rubrique commentaires. D'ailleurs, à propos de jeux papous, notez que dimanche prochain, nous vous proposerons 10 mots pour jouer à imaginer des histoires en prose ou en rime. Au revoir, dans quelques instants, les regardeurs arrivent sur France Culture avec leur chef, Jean Deloisy. Passez un très bel après-midi à l'écoute.
Quoi, quoi ?